Peugeot. Nous prenons en moyenne 35 000 décisions par jour. On ne sait pas vous, mais chez Peugeot, on trouve que ça fait beaucoup. C'est pourquoi nous lançons le nouveau Peugeot 3008 hybride. Plus besoin de choisir entre électrique et thermique. Sobre et dynamique, il permet de rouler jusqu'à 50% du temps en électrique en ville et d'économiser jusqu'à 30% de carburant. Venez le découvrir en concession ou sur Peugeot.fr. C'est sans doute la meilleure des 35 000 décisions que vous prendrez aujourd'hui.
Suivant état de charge de batterie, style de conduite versus une motorisation thermique. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
De l'armée israélienne sur la ville de Rafah dans la bande de Gaza.
Alors même que le Hamas a accepté une proposition de trêve, mais Israël veut accentuer la pression dans les négociations. Dans ce journal également, l'escapade intimiste d'Emmanuel Macron avec le président chinois tout à l'heure dans les Pyrénées, le tourisme français qui se porte très bien à 2 mois et demi des JO, et puis Paris aux portes de la finale en Ligue des Champions, mais pour ça, il faudra gagner ce soir contre Dortmund. La question du jour sur RTL.fr, le gazole moins cher que l'essence. Est-ce que ça vous incite à repasser au diesel? Ce matin, vous dites oui à 49%.
Et dans un quart d'heure, RTL événement, l'enquête de la rédaction à un mois des européennes, l'enquête du service politique, comment Jordan Bardella a réussi à conquérir les jeunes.
RTL Matin.
Le Hamas a donc annoncé avoir accepté une proposition de trêve à Gaza, proposition soumise par les médiateurs, que refuse Israël, qui annonce de son côté envoyer une délégation pour parvenir à un accord. L'État hébreu qui maintient la pression avec des bombardements ces dernières heures dans la ville de Rafah, dans le sud de l'enclave, là précisément où l'armée prépare une opération militaire terrestre. Pourtant, de nombreux pays, dont les États-Unis, ont mis en garde Israël, Arnaud Touche.
Oui, Joe Biden et le Premier ministre israélien se sont parlé directement au téléphone hier. Et le président américain a maintenu sa position. Il ne souhaite pas qu'Israël lance une attaque dans la ville de Rafah. Le porte-parole du département d'État a déclaré dans la foulée qu'une opération militaire à Rafah, en ce moment même, accroîtrait considérablement les souffrances du peuple palestinien, ajoutant qu'il n'avait pas vu de plan humanitaire crédible et applicable. Le président américain a déjà averti depuis plusieurs semaines qu'en cas d'offensive, il serait amené à modifier sa politique vis-à-vis d'Israël. Les États-Unis fournissent aujourd'hui au pays la majorité des armes et des munitions. Dans le même temps, les États-Unis font pression en faveur d'un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. Le directeur de la CIA est d'ailleurs en ce moment même dans la région pour faire avancer les négociations.
Merci Arnaud Touche, correspondant RTL aux États-Unis. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les faits antisémites ont bondi en France, plus 300% sur le premier trimestre 2024 par rapport à 2023. Il y en a eu 366 enregistrés selon Gabriel Attal.
Ce sera l'une des images du jour, hein, Emmanuel Macron et le président chinois Xi Jinping dans les Hautes-Pyrénées.
Hier, le chef de l'État français a affiché sa fermeté face aux tensions commerciales qui s'accumulent entre l'Europe et la Chine. Sur le plan de la sécurité internationale, les deux hommes ont toutefois convenu d'un appel à une trêve olympique pendant les JO. Aujourd'hui donc au programme une visite plus intime, plus symbolique sur les terres de la grand-mère du président chinois. Un déjeuner au col du Tourmalet dans un restaurant que connaît très bien Emmanuel Macron, Patrick Tégéro.
C'est un restaurant d'altitude, l'étape du berger. C'est le père de Françoise Galaï qui l'a créé. Et parmi ses premiers clients, il y avait les grands-parents d'Emmanuel Macron.
Alors papa a connu le président adolescent. Moi-même, je l'ai connu aussi d'avoir 15-16 ans. Quand il venait pour skier à la Mongie, puisque sa grand-mère est originaire de Bagnères-de-Bigorre.
Alors dès que c'est possible, il passe voir Françoise et Eric qui ont repris le restaurant.
D'autant plus que c'est un excellent skieur. Et donc quand il a l'opportunité, l'hiver, il vient nous faire un petit coucou et faire 4 virages.
À l'état du berger, les présidents vont manger local.
Ils sont là pour ça aussi, puisque mon mari est avant tout éleveur de porc noir, d'agneau. Il va déguster nos produits, notre soupe locale qui est la garbure. Au niveau culinaire, c'est pas forcément très compliqué. Ce qui est un peu plus compliqué, on va dire, c'est tout ce qui est mis en place et sécurité.
D'autant qu'il va falloir se réconforter. La météo prévoit à peine quelques degrés au-dessus de zéro et des bourrasques de neige fondue. La gastronomie devra compenser l'absence de paysage.
Patrick Tégéro dans les Pyrénées, donc pour RTL.
De son côté, Gabriel Attal réunit ce matin à Matignon un comité interministériel sur le tourisme.
Oui, pour bien préparer la saison estivale qui sera forcément très particulière avec les Jeux Olympiques. Mais tous les indicateurs sont au vert après une excellente saison hivernale, des week-ends prolongés qui se répètent, hein, on est en plein dedans avec les ponts du mois de mai. Tout cela après une année 2023 record, Nathan Bocard.
Oui, avec 100 millions de touristes l'an dernier, la France reste la première destination au monde. Et l'année 2024, pour l'instant, se passe plutôt bien. Pendant les vacances d'hiver, par exemple, les hébergements à la montagne enregistraient un taux d'occupation de 83%. C'est 3% de plus que l'an dernier. Une bonne dynamique qui se confirme pour les longs week-ends et les ponts d'avril et mai. Le taux d'occupation est en hausse de 8 à 12%. Et ça n'est que le début, puisque tous les regards sont désormais tournés, bien sûr, vers les Jeux Olympiques et Paralympiques. Avec déjà un indicateur, le taux d'occupation des hôtels parisiens pendant les Jeux. Il est à date de 65%, c'est 40 points de plus que l'été dernier à la même période. Mais prudence, disent les professionnels, les visiteurs s'y sont pris bien à l'avance. Et ce chiffre, il risque de ne plus beaucoup augmenter. Une inquiétude qui rejoint celle des transports ou des livraisons pendant les Jeux. Pour y répondre, une deuxième réunion aura lieu tout à l'heure, juste après le comité interministériel.
Merci beaucoup Nathan Bocard. On parlait de ces longs week-ends avec le pont du 8 mai. Pour de nombreux Français ce soir, ce sera le week-end. À ce propos, bison futé, voie rouge dans le sens des départs aujourd'hui. À retenir en bref, les hommages qui se multiplient après l'annonce de la mort de Bernard Pivot, 89 ans. Emmanuel Macron salue un passeur populaire et exigeant, cher au cœur des Français. Et puis Jordan Bardella fait toujours la course en tête dans notre sondage Toluna Harris Interactive. À un mois des européennes, la liste RN est stable à 31% des intentions de vote. Valérie Ayé perd un point, elle est à 15%. Raphaël Glucksmann en gagne un de son côté, il est à 14%.
Et puis le Paris Saint-Germain est à 90 minutes de la finale de Ligue des Champions.
Dernière marche à franchir ce soir, c'est le match retour des demi contre Dortmund. À l'aller, Paris avait perdu 1-0. Mais ce soir, ça se passe au Parc des Princes. Bonjour Philippe Sanfourche.
Bonjour.
Bon, pas de calcul, Paris doit l'emporter à tout prix.
C'est ça, si Paris veut s'offrir la deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire, plus question de calculer. L'idée, c'est vraiment de rééditer la performance livrée à Barcelone il y a exactement 3 semaines en quart de finale. Remonter un but de retard, ils savent faire, ils vont le refaire. Marquinhos, le capitaine, en est convaincu.
Il y a toute une expérience. Je pense que le coach aussi s'est très bien préparé à ce genre de confrontation. Une demi-finale du Champions League, c'est pas tous les ans. Je suis ici, ça fait 11 ans, c'est ma 3e fois. Et c'est pour ça, il faut des bonnes énergies pour qu'on puisse faire un très bon match.
Marquinhos, orphelin de son compère de défense, Lucas Hernandez, blessé au match aller. Le portugais Danilo et le brésilien Beraldo seront en balance jusqu'au dernier moment pour assurer la relève.
Bon, et il y a un homme attendu comme jamais, Philippe, c'est bien sûr Kylian Mbappé.
Ah, ce sera, quoi qu'il arrive, maintenant son dernier match de Ligue des Champions avec Paris au Parc des Princes. Lui qui a inscrit 8 buts dans la compétition depuis le début de saison, co-meilleur buteur de l'épreuve avec Harry Kane du Bayern Munich. Alors il a été décevant au match aller, autre parallèle avec Barcelone en quart de finale. On connaît la suite, un doublé en Catalogne. Réagir pour marquer l'histoire, ce sera la mission de Kylian Mbappé ce soir.
Merci Philippe Sanfourche. Et ce soir, bien, on vous retrouvera au commentaire de ce Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, RTL Foot spécial Ligue des Champions dès 20h autour d'Eric Silvestro. Et puis un dernier mot de football, puisqu'hier soir il y avait de la Ligue 1. Lyon a battu Lille sur le fil, dans le temps additionnel. Match fou, 4 buts à 3. Lille qui reste 4e au classement.
On va parler voiture et gros sous dans On vous en parle à 5h20, Tom.
Oui, puisque je suis tombé sur cette mise aux enchères d'une place de parking à Amsterdam pour une somme, mais alors astronomique.
Merci beaucoup. 5h08, vos messages, Marina. Ouh, la pluie a cessé, nous dit Laurent qui est à Rodez.
Oui, bah pas pour tout le monde, parce qu'il y a par exemple Micheline qui est à Barbie en Savoie, mais il tombe des cordes. C'est vrai que là, sur la façade est du pays, il y a pas mal d'averses, et notamment sur les départements alpins. C'est le cas aussi à Vougis, c'est en Haute-Savoie. Christophe qui nous dit, mais il pleut, stop à la pluie. Allez, patientez encore 2 jours pour vous, ça ira mieux en fin de semaine et vous retrouverez du soleil. Christophe, patientez, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous aurez encore des averses. Nous avons Alexandre qui est en route pour la cité scolaire de Mirepoix depuis Mazères en Ariège, où il fait 12 degrés, le ciel est chargé. Alexandre qui nous dit avoir la pêche grâce à nous.
Ah bah c'est sympa.
Attaquer sa nouvelle journée en cuisine. On vous souhaite une belle journée, Alexandre. Et puis on va terminer par ce message d'Anthony de Pequeuse qui nous dit, le 7 mai 2008 sortait le titre « Viva la vie » de Coldplay. Moi j'adore ce titre, donc merci Anthony pour ce rappel.
C'est le générique du grand studio d'Éric Jean-Jean.
Mmh.
Allez, à suivre dans vos petits matins et RTL événement dans 5 minutes. Jordan Bardella, le président du RN et tête de liste aux européennes. Comment expliquer sa popularité auprès des jeunes et notamment des moins de 25 ans? Reportage et décryptage de Julien Fautra. Et puis Londres qui n'est plus à la fête. Les bars et les lieux de concert ferment les uns après les autres dans la capitale britannique. Que se passe-t-il? On en parlera après le journal de 5h30.
J'ai perdu, Klaus.
Jaja. J'aime bien Jaja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS.
Klaus, je vous revois, mais je vous avais perdu.
La visioconférence d'Alex Vizorek tous les soirs à 18h37. Hier, il était notamment question de ces préservatifs. 240 000 préservatifs distribués pour les athlètes pendant les JO.
J'ai fait une petite règle de 3. 240 000 préservatifs pour 10 500 sportifs. Ça donne autour de 23 préservatifs par tête pour seulement 15 jours. J'ai un peu ramené à mes performances à moi. Franchement, ça va aller.
C'est la jeunesse.
C'est la jeunesse. Mais en plus, ils doivent faire des performances sur les terrains, si vous voulez. Je pense qu'ils vont tous finir sur les rotules et vont être versés directement dans les épreuves paralympiques. Ça va être vite.
Sachez qu'Emmanuel Macron a déclaré qu'il allait demander à la Russie un cessez-le-feu en Ukraine durant les JO de Paris.
Alors, c'est pas du coup vraiment un cessez-le-feu, c'est un poser le feu. Mais franchement, si vous voulez reprendre après, ok. Et sachez que d'après mes informations, Vladimir Poutine aurait accepté à une condition que ses opposants russes et ukrainiens s'engagent à nager dans la Seine avant les Jeux Olympiques. Alors c'est oui.
Alex Vizorek tous les soirs à 18h37. Bon, on n'a pas bien écouté Coldplay que vous voulez demander, que demander à un auditeur. Alors on écoute un extrait de Viva la Vida. Salut, c'est Eric Jean-Jean.
Je sais pas s'il nous écoute, mais le pauvre.
Non, à cette heure-ci, non.
On va jamais pouvoir l'entendre chanter, Chris. Il y a Tom qui veut parler, il y a Jérôme qui veut parler. Je m'en sors pas, moi.
Il est 5h11, Marina. Allez, on jette un coup d'œil à vos journaux ce matin. Vos journaux qui sont nombreux, évidemment, à rendre hommage à Bernard Pivot. Épilogue, titre joliment Libération. Point final, titre La Dépêche du Midi. L'homme qui nous faisait aimer les livres, dit Le Parisien aujourd'hui en France, qui publie les derniers mots du présentateur au journal. C'était lors d'un entretien en 2021. Il méditait sur son âge et le temps qui passe. Bien des personnes âgées pleurent sur leur jeunesse et leur âge adulte, disait Bernard Pivot. Leur mémoire arrondit les angles et réveille les couleurs, mais il ne faut pas tomber dans cette nostalgie injuste. La pire des choses, c'est de s'enfermer dans son passé. Il faut rester ouvert, continuer à s'intéresser à l'actualité, disait Pivot, passionné jusqu'au bout. 6 pages spéciales à lire aujourd'hui dans le Parisien. Marseille en fête, à la veille de l'arrivée de la flamme olympique à bord du Belém, l'événement le plus extraordinaire jamais organisé à Marseille, s'enflamme le maire dans les pages de la Provence, Benoît Payan, la Provence qui titre Marseille, centre du monde. La ville qui s'offre d'ailleurs une pub en une du journal La Marseillaise avec ce photomontage de la torche olympique dominant le Vieux-Port. Et puis, dossier spécial dans les journaux du centre, à près d'un mois maintenant des européennes, 8 idées reçues sur l'Europe, parmi lesquelles Bruxelles décide de tout. L'Europe est une passoire, nos confrères décryptent quelques préjugés.
RTL, le podcast du jour.
Votre podcast du jour, c'est un extrait maintenant avec Jour J. Hier, dans Jour J, Flavie Flamand consacrait son émission à Rachida Dati. Les journalistes Elisabeth Chavelet et Christophe Barbier évoquent un aspect peu connu de l'actuel ministre de la Culture, ses talents d'imitatrice.
Moi, le nombre de gens qui m'ont dit, elle me fait, mais je traite entre guillemets, mais pisser de rire. Pourquoi? Parce qu'elle a une faculté, par exemple, qu'on connaît mal, mais d'imitation. Elle imite, c'est vrai, mais elle parle à imiter Carla Bruni, par exemple. Alors, elle mettait la mèche devant ses cheveux, puis elle fait des trucs comme ça. Bon, elle imite les gens, elle les désingue tous, à tour de bras.
Ouais. Enfin, voilà. C'est une championne de la
vacherie.
C'est une championne de la vacherie. C'est une championne de la vacherie. Dès qu'on la branche sur quelqu'un qu'elle n'aime pas, notamment les proches de Sarkozy, qu'elle déteste. Pierre Charron, Brice Hortefeux. Alors là, c'est un festival. Donc évidemment, ça plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup aussi aux journalistes qui aiment bien faire des échos avec tout ça. Je l'ai rarement entendu avoir beaucoup d'humour sur elle-même, en revanche. Hein. C'est pas du tout la championne de l'autodérision.
Pas du tout,
contrairement, par exemple, à François Hollande, qui lui aime bien se moquer de lui-même.
Et pour retrouver ce podcast, vous allez sur RTL.fr ou vous ouvrez l'application RTL sur votre smartphone. Vous cliquez sur la petite loupe et dans la barre de recherche, vous tapez Jour J.
RTL.
Julien Courbet règle vos problèmes en direct sur RTL.
Alors, en ce mardi, je tiens à vous le dire, si vous aimez le rock'n'roll, vous allez être servi. On va avoir énormément de cas, beaucoup de bonne humeur bien évidemment, mais je peux d'ores et déjà vous le dire à l'avance, un auditeur un peu énervé qui va me dire à un moment donné...
Quand on regarde dans la culotte de quelqu'un, faudrait déjà voir si vous avez du caca.
Alors, est-ce vrai ou faux? Bah, vous en saurez plus tout à l'heure, à 9h sur RTL.
RTL Matin, Jérôme Florin.
Dans l'actualité, à retenir notamment ces intenses bombardements israéliens cette nuit à Gaza et notamment à Rafah, dans le sud de l'enclave palestinienne, quelques heures seulement après l'annonce d'une trêve par le Hamas. Et finalement, trêve rejetée par Benjamin Netanyahou qui estime que ces conditions sont insuffisantes. Les pourparlers reprennent aujourd'hui au Caire. À Rafah, les habitants gardent l'espoir d'une pause dans les combats après la proposition du Hamas. Écoutez Rami.
Les gens ils sont descendus dans les rues et là c'est la grande joie et j'espère que cette nouvelle là va continuer jusqu'au bout et qu'on va finir par un cessez-le-feu.
On y revient dans le journal de 5h30.
RTL événement.
Le rendez-vous de la rédaction avec vous ce matin, Julien Fautrat du service politique du RTL, bonjour.
Bonjour.
Alors qu'on vote dans près d'un mois maintenant aux élections européennes, il fait figure de favori dans tous les sondages, les uns après les autres. C'est Jordan Bardella, le patron du Rassemblement National et tête de liste pour cette élection, et de plus en plus populaire chez les moins de 25 ans. Qu'est-ce qui vous permet d'abord, Julien, de dire cela concrètement, d'affirmer cela ?
Eh bien déjà parce que les Français qui se rendent au meeting de Jordan Bardella ont changé, la moyenne d'âge a baissé, je l'ai constaté. Alors pour confirmer cette impression, j'ai passé un coup de fil à l'Institut Harris Interactif Toluna avec qui on travaille ici à RTL. En 2019, aux dernières européennes, 14% des 18-24 ans ont voté pour le RN. 14% aujourd'hui, 5 ans plus tard, c'est 31% qui prévoit de le faire, plus 17 points. Et le RN est devenu, loin devant la France Insoumise, le premier parti chez ces jeunes, jeunes diplômés comme jeunes sans diplôme. 1 sur 3 qui ira voter le 9 juin aux européennes, ira voter pour Jordan Bardella.
Et qu'est-ce qu'ils vous disent ces jeunes qui vont voter pour le RN ?
Je suis allé les rencontrer partout en France, à Montbéliard déjà. Nous sommes dans le département du Doubs. Inès et Charlène, 23 et 24 ans, attendent alors le meeting de Jordan Bardella.
Nous, c'est de par les réseaux sociaux, en fait, où on a... je le suis beaucoup, en fait, sur les réseaux, tout ce qui est TikTok, c'est Facebook, les vidéos, en fait, qui, du coup, nous touche plus les jeunes.
Vous pouvez me montrer une vidéo TikTok, parce que moi, j'ai pas TikTok. Ça vous ennuie ?
Il y a 5 ans, vous m'aviez accordé votre confiance. Dans un pari dont tout le monde, y compris moi, s'accordait à dire qu'il était osé.
Bah, c'est beau parce qu'il est jeune, on lui a donné sa chance et aujourd'hui il a un beau parcours à son âge, à seulement 27-28 ans.
Et il va droit au but.
Droit au but, ce n'est pas une phrase anodine. Sur le réseau social TikTok sur lequel défilent les vidéos, l'application peut choisir pour vous les vidéos qui arrivent sur votre écran. Et au RN, on m'a expliqué qu'on a essayé d'être percutant dès les 2 premières secondes d'une vidéo sur TikTok, avec une musique larmoyante ou très agressive, immédiatement, dès le début, pour accrocher celui qui la regarde. Et ensuite, plus on reste scotché à une vidéo et plus TikTok va comprendre que ça nous plaît et va proposer des vidéos du même type. Pour Jordan Bardella, c'est bingo. Il compte 1 200 000 abonnés sur le réseau social préféré des jeunes.
Et ces jeunes s'informent comme ça, par TikTok ?
En partie, oui. Nous étions à Montbéliard à l'instant. Allons voir Fanny à Marseille. Elle a 20 ans, Fanny. Elle est venue cette année pour la première fois à un meeting de Jordan Bardella.
Principalement via TikTok, on voit beaucoup de petites interviews ou de choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est là qu'on voit un maximum d'informations.
Et ça marche bien parce que c'est comme ça que vous vous informez aussi ?
Carrément. Bah en fait, ça permet de simplifier l'information. C'est plus l'information qui vient à nous. C'est court, donc ça nous intéresse plus.
Court, percutant, c'est la recette chez ces jeunes-là. À Perpignan, j'ai rencontré Timothée, 18 ans. Il va voter pour la première fois le 9 juin prochain. Sa façon de décrire Jordan Bardella, un influenceur comme ceux qui font la pub de produits sur les réseaux sociaux.
On le voit beaucoup sur les réseaux, Jordan Bardella, donc c'est...
Vous informez sur Instagram ?
Non, je ne m'informe pas sur Instagram, c'est juste pour voir... Enfin, voir à lui comme on suivrait un influenceur, quoi.
Il aurait un petit côté influenceur, c'est ça ?
Ouais, un peu, on va dire. Mais c'est ça qui fait qu'il y a plein de gens, du coup, qui viennent le suivre, surtout ce côté influenceur. Mais surtout, je pense qu'il arrive à réunir tout le monde autour d'une... Enfin, même chose, la France, quoi, le drapeau français, la République.
La méthode des influenceurs appliquée à la politique. au RN s'est assumé. On veut dépolitiser et quand Jordan Bardella vient dans un département, il faut que les gens aient envie de voir une rockstar. C'est pas moi qui le dis, c'est un cadre de la campagne.
Et le parti a particulièrement investi ?
Oui, 10 personnes rien que pour la com avec des militants qui animent les réseaux sociaux. Il n'y a pas une personne dédiée à un réseau social, mais une personne pour un type de tâche. Car certaines vidéos filmées de telle façon iront sur tel type de réseau, mais pas pour un autre. C'est hyper organisé. Dans les meetings et aux abords, il y a un tas de caméras et de jeunes avec leurs portables qui filment tout le temps, plus une société extérieure, un prestataire, qui réalise des vidéos plus longues, plus léchées, qui elles aussi alimenteront les réseaux sociaux.
RTL événement signé ce matin, Julien Fautra.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
Et parmi les sujets qui nourrissent la popularité du Rassemblement National, il y a bien sûr le pouvoir d'achat qui pèse sur vos vacances. On en parlait hier matin, 4 Français sur 10 ne partiront pas en vacances. Et c'est votre cas, Benoît. Vous avez voulu réagir à ce sujet. Bonjour.
Oui, bonjour à tout le monde. Oui, parce que déjà nous...
Vous êtes dans quel coin, pardon, excusez-moi ?
De Soissons, dans l'Aisne.
Vous êtes à Soissons, dans l'Aisne, très bien.
Et vous êtes ouvrier agricole, je précise.
C'est ça, voilà, en saisonnier, voilà. Donc nous, déjà, c'est vrai qu'on va dire que l'été, pour nous, c'est mort. On travaille.
Oui.
Donc déjà, on ne peut pas partir entre juin et octobre.
Pourquoi l'été, précisément ? Dans quel domaine vous êtes ?
Parce qu'il y a tout ce qui est céréales à récupérer, donc il y a le blé, l'orge, donc c'est les récoltes, c'est la période des récoltes. Donc nous, l'été, on peut pas partir.
Et l'hiver ?
Eh ben l'hiver, l'inconvénient, c'est que quand on veut sortir l'hiver, eh ben tout est fermé parce que ben c'est plus les périodes de vacances.
Ouais, tout n'est pas fermé, vous pouvez quand même.
Et le prix. Là, le prix, c'est super cher. Moi, je trouve que même là, ce mois-ci, je voulais faire un week-end pour dire, tiens, on va sortir un petit peu, partir 2 jours de repos, et on peut pas se permettre de partir un week-end en France.
Parce que vous n'en avez pas les moyens.
Ah oui, là, je voulais partir pas très loin de chez moi, parce que j'ai des animaux à m'occuper, donc partir 2 jours, et même pour 300 euros.
Oui.
Alors, on touche que 900 euros actuellement, parce qu'on est en chômage.
Et alors, voilà. 300 euros, où vous avez cherché, dans quel domaine ?
Du secteur Saint-Quentin, où je voulais lui offrir à mon mari une nuit insolite dans une roulotte. Ben voilà, on voit le tarif, 300 euros pour le week-end, quoi.
Oui.
Où tu te dis, ouais, c'est hors de prix, quoi.
Oui, entre la nuit, la nourriture, et puis le trajet.
Oui, voilà, donc même pour un week-end, on peut même plus se permettre d'un week-end. Donc je trouve ça que maintenant, avant on pouvait, même un restaurant on pouvait, mais là actuellement on peut plus faire de loisirs. Je trouve ça, à part faire les crédits, comme on dit, comme je regarde les publicités, Carrefour, payer en 10 fois, Leclerc, payer en 10 fois vos vacances. Mais c'est un engrenage impossible pour les vacances, je ne mettrai pas crédit.
Ça fait combien de temps que vous n'avez pas pris de vacances, Benoît ?
Eh ben nous, ça fait 17 ans qu'on est ensemble, donc ça fait 15 ans.
15 ans que vous n'êtes pas parti en vacances ?
Ouais. Et même là, je peux vous dire qu'on s'est mariés il y a 2 ans, on n'a pas les moyens de se faire le voyage de noces, un week-end.
C'est qu'une question de moyens actuellement, et c'était le cas avant, ou c'est vraiment le fait de moyens, depuis le début ?
On s'est passé des petits week-ends, parce que moi j'ai 9 chocs, 15 poules, donc on part pas très loin, pas très longtemps. Mais là, quand je vois les tarifs qu'ils ont augmenté, moi je trouve que c'est 300 euros, imaginez, pour un petit week-end. En plus, on arrive là-haut à 15h et on doit partir à 10h du matin.
Oui. Vous avez 9 chats et 15 poules, Benoît.
Ouais.
Vous ne vous facilitez pas la vie quand même. Hein,
non, c'est sûr.
Bon, ça compense, quoi. Disons que voilà, vous partez pas, mais il y a plein d'animaux qui sont avec vous. Pourquoi autant ?
Parce qu'on aime bien les animaux.
C'est du boulot, là.
Je vis dans un village de 500 habitants, donc vous savez, ça nous fait de l'occupation.
Ouais. Hein. Bah, c'est du boulot, mais c'est de l'argent aussi, parce qu'il faut, il faut les nourrir. C'est
occuper.
Oui, ça c'est sûr. C'est comme nos bébés. Hein. Donc un bébé, on les nourrit, et puis eux, on fait pareil. C'est notre priorité.
Ça fait une grande famille, en tout cas. Merci beaucoup, Benoît, et bon courage pour cet été, donc qui sera actif, studio. On l'a bien compris, studio.
Ah oui, qui sera actif, oui.
Merci beaucoup, à bientôt.
À bientôt, merci.
Bonne journée, il est 5h23 sur RTL.
RTL Matin, on vous en parle.
Chaque matin, Tom, vous scrutez la presse et les réseaux sociaux, et vous nous dites ce matin qu'il faut un sacré budget pour garer sa voiture à Amsterdam.
Oui, puisque je suis tombé sur cette mise aux enchères relayée par nos confrères de RTL aux Pays-Bas. Un emplacement de stationnement est mis en vente, alors accrochez-vous, il est à vendre à près de un demi-million d'euros.
Hein, c'est
quoi ? Oui, 495 000 euros juste pour garer sa voiture. C'est très cher et justement, bah, ça fait le buzz là-bas. Hein.
495 000 euros pour un emplacement. Alors, qu'est-ce qui explique ce prix ?
Bon, alors, je sais pas si on peut expliquer pourquoi c'est aussi cher, mais en tout cas, il y a quelques petits arguments. D'abord, la localisation, c'est au bord du Vondelpark. C'est l'espace vert, le plus bel espace vert d'Amsterdam. C'est dans un espace fermé qui se situe dans une rue commerçante et très prisée. Alors, pour ça, bah forcément ça prend un petit peu de valeur. Faut aussi prendre en compte la taille de cette place de parking, 18 mètres carrés, c'est presque aussi grand qu'un appartement. Selon l'agence de location, cette place elle pourrait être louée 750 € par mois. 750 €, c'est vrai que ça fait cher pour garer la Twingo. En vrai, vu le prix et la taille, bon, c'est surtout fait pour des gros bolides, des grosses voitures. L'autre explication de ce prix exorbitant, bah, c'est que la plupart des places de stationnement dans le pays, bah, elles ont été fermées. L'objectif du pays, des Pays-Bas, c'est de réduire la présence de voitures dans les centres-villes. Dites-vous que le prix de cette place, donc à près de 500 000 euros, on le rappelle, est plus élevé que la moyenne d'un logement aux Pays-Bas, qu'on estime à 430 000 euros.
C'est incroyable. Donc, ça coûte vraiment cher d'avoir une voiture aux Pays-Bas.
Oui, et justement, je me suis dit, en voyant cette info, dans quel pays ça coûte le plus cher d'avoir et d'entretenir une voiture ? Eh bien, sachez qu'il y a d'énormes différences selon les pays, rien qu'au prix d'achat. On prend l'exemple d'une Volkswagen Golf, qu'on trouve un petit peu partout dans le monde. Ça coûte 20 000 euros aux États-Unis ou en Pologne. C'est presque le double au Danemark ou en Afrique du Sud. Près de 40 000 euros, c'est 38 000 euros très précisément. Autre exemple, une Toyota RAV4. Ça coûte 21 000 euros au Canada ou au Mexique. En Norvège, c'est près de 3 fois plus, 55 000 euros rien qu'à l'achat. Mais alors le plus cher, c'est inévitablement à Singapour.
Oui.
Dans ce pays, il faut, ça existe, un certificat simplement pour avoir le droit d'acheter une voiture. C'est-à-dire qu'avant d'acheter une voiture, il faut une sorte de permis d'achat.
Oui.
Et ce permis est à 100 000 euros. Donc il faut être déjà très riche.
Le prix du certificat.
Le certificat, pas la voiture. Hein. Vous n'avez pas la voiture pour le prix là. En fait, les autorités veillent à empêcher une trop forte expansion du parc automobile.
On n'est pas encore... On n'est pas encore à ça en France, hein.
Non,
heureusement.
Et pour le carburant, alors Tom ?
Eh ben là, c'est pareil, les prix n'ont rien à voir. C'est notamment dû aux taxes qui représentent la majeure partie, hein, en France, c'est à peu près 60% du prix. Aux États-Unis, par exemple, le litre de sans-plomb est à 1 €. Quand chez nous, c'est presque le double, 1,90 € en moyenne aujourd'hui. En fait, c'est en Europe que les prix sont parmi les plus élevés de la planète. Si l'on regarde les pays producteurs de pétrole, au Venezuela, en Iran ou encore en Libye, le litre coûte 1 à 3 centimes, 1 à 3 centimes le litre. Donc, en Algérie, c'est 30 centimes. C'est encore beaucoup moins cher que chez nous. Mais alors, à contrario, le pays le plus cher au monde, eh ben, c'est à Hong Kong où le litre est vendu 2,78 €.
Ouf, 2,78 €.
Ça fait cher le plan.
Ah oui, on fait attention. Merci beaucoup, Tom.
RTL Matin.
Avec Jérôme Florin.
Un extrait de vos grosses têtes, c'est tous les jours sur RTL, 15h30, 18h, avec la visite du président chinois, Xi Jinping.
Et son copain avec donc ce restaurateur depuis très très longtemps, les Macron, enfin Emmanuel Macron, le président, à la Mongie. C'est là où il y a des télésièges pour monter dans les...
Et pourquoi il ramène le président chinois ?
Pour lui montrer là où il a vécu quand il était jeune.
L'autre, ça doit le passionner. Hein.
Est-ce que ce ne serait pas une preuve de narcissisme, de léger narcissisme ?
Non, parce que quand il est allé en Chine, le président Macron, il paraît que le président chinois l'a emmené justement là où lui, le président chinois, avait été.
C'est la réponse du berger à la bergère.
Il s'est tellement fait chier qu'il a fait...
Il a dit, c'est ça. Il a dit, tu auras la même chose.
Et si ça se trouve, il ne peut pas le saquer.
Ah, c'était bien trouvé. Donc vos grosses têtes, 15h30, 18h tous les jours sur RTL. On vous offre des places pour aller voir Blue et compagnie. Ça sort demain au cinéma. Un film d'animation avec les voix de José Garcia, de Mylène Farmer, de Marina Foïss. Et pour aller voir ce film et gagner des places, vous appelez le 3210 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun deux places. Bonne chance à tous. 3-2-1-0. Et c'est encore un temps aller au cinéma, hein, Marina.
Oui, pour une grande partie du pays, il y en a qui auront des éclaircies, mais généralement, hein, sur les 4/5 du pays, ce sont les nuages qui vont dominer avec des averses. Là, au moment où je vous parle, il y a des averses de la Loire-Atlantique à la Vendée jusqu'au sud de la Loire. Pas mal d'averses sur le sud-ouest du pays en remontant vers le Limousin et l'Auvergne. On a aussi des averses du sud de l'Alsace à la Franche-Comté en allant vers le nord des Alpes. Relativement aussi quelques averses sur la Corse. Puis entre ces deux zones, hein, on a quand même quelques éclaircies qui percent, notamment vers le littoral méditerranéen. méditerranéen, le long du Rhône aussi, puis en remontant vers la région parisienne et les Ardennes. Vous pouvez avoir quelques éclaircies. Dans l'après-midi, le soleil va revenir sur la Bretagne et les côtes de la Manche. Sur les régions situées du nord de la Loire, en allant vers le nord de l'Alsace, il y aura du mieux dans le sens où il y aura de plus en plus d'éclaircies et de moins en moins d'averses, mais enfin il y aura encore des passages nuageux. Et puis on garde un temps perturbé sur le sud de la Loire, le massif central, les Alpes, c'est-à-dire des nuages, des averses, voire même des orages. Toujours un peu de neige en montagne au-dessus de 1800 mètres sur les Alpes et les Pyrénées. Il faut vraiment aller autour du golfe du Lion pour avoir un temps un petit peu plus clément, quoiqu'il y a du vent, hein, Mistral, Tramontane soufflant à 60-70 km par heure.
Les températures,
13 degrés à Aurillac cet après-midi, 15 à Besançon et à Clermont-Ferrand, il fera 16 à Lyon, 16 aussi à Toulouse. Vous aurez 18 à Brest, à Bourges et à La Rochelle, il fera 19 à Lille cet après-midi, mais aussi à Strasbourg et à Metz, 20 à Paris, 20 à Rennes et à Perpignan et 21 à Ajaccio.
Merci beaucoup Marina. Vous écoutez RTL, il est 5h30.
Jérôme Florin, RTL Matin.
Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
Il s'est invité dans les bibliothèques de millions de Français. L'émotion demeure au lendemain de la disparition de Bernard Pivot.
Le présentateur du cultissime Apostrophe avait 89 ans. La confusion plus que jamais à Gaza. Israël examine le projet de cessez-le-feu accepté par le Hamas, mais bombarde déjà une partie de Rafah.
Après ce journal RTL autour du monde, il était menacé de taxes supplémentaires. Le président chinois accorde finalement un sursis au cognac français.
Et puis le football, Paris retrouve Dortmund et joue sa place en finale de Ligue des Champions à 21h. Ce sera à vivre sur RTL.
RTL Matin.
Il restera à jamais le libraire de tous les Français. Bernard Pivot s'est donc éteint hier à 89 ans. L'écrivain, présentateur vedette d'Apostrophe, émission regardée pendant 15 ans chaque semaine par 2 à 3 millions de téléspectateurs. Né à Lyon, il avait grandi dans la maison familiale de Quincy en Beaujolais, où il a marqué chacun des 1300 habitants, Raphaël Vantard.
C'était son coin de paradis, entre les vignes du Beaujolais, entre les lignes des romans qu'il dévorait. C'est ici que Bernard Pivot passe d'abord une partie de sa jeunesse pendant la guerre, avant d'en faire son coin refuge une fois célèbre, auprès du maire de Quincy en Beaujolais, Daniel Michaud.
Bernard Pivot, c'était un véritable enfant du village. Il y a fait ses années scolaires à l'école communale et puis il venait très très souvent ici. Et il aimait le village, son village, Quincy-en-Beaujolais, le Beaujolais, le vin, tout simplement.
Chaque fois qu'il s'extirpe de Paris, Bernard Pivot ramène à Denise et aux autres bibliothécaires de Quincy-en-Beaujolais des livres pour une médiathèque qui porte aujourd'hui son nom.
Il arrivait tous les ans avec ses sacs de livres et puis après, le maire a suggéré qu'on lui donne le nom de Bernard Pivot à cette bibliothèque, puisqu'elle était un petit peu à lui, quoi. C'était Bernard.
Elle habitait en face de Bernard Pivot Fleur et ses deux frères sont très émus par la disparition de l'enfant du pays.
Quand on le voyait de temps en temps à la boulangerie, à la boucherie ou à la cave coopérative, c'était salut Bernard, quoi. Enfin, c'était vraiment quelqu'un de très très naturel, vraiment impliqué, et je trouve ça vraiment chouette.
Amoureux du Beaujolais, Bernard Pivot possédait ici un hectare de vigne, une cuvée porte même à jamais son nom à la coopérative du village.
Raphaël Vantard à Quincy en Beaujolais pour RTL. Emmanuel Macron a salué dans la soirée sur les réseaux sociaux un passeur populaire et exigeant cher au cœur des Français.
De nouveau pour parler prévu aujourd'hui en Égypte pour discuter d'une trêve à Gaza.
Car Israël n'a toujours pas accepté le texte approuvé par le Hamas plus tôt dans la soirée. Et au moment de cette annonce, c'est la joie qui s'est emparée des habitants de Rafah, cette ville du sud de l'enclave où se trouvent désormais plus d'1,5 million de personnes, dont Rami, joint par Émilie Beaujard.
Les gens, ils sont en train de fêter cette annonce, cette bonne nouvelle que le Hamas, ils ont accepté un cessez-le-feu. Les gens sont descendus dans les rues. L'ambiance a changé d'inquiétude, de la peur, à une ambiance de la joie et de la grande fête. Ils attendaient cette nouvelle depuis longtemps. Tout le monde est dans les rues, tout le monde sort de chez soi, alors que tout le monde, après le coucher de soleil, ils se sont tous abrités chez eux par peur de bombardement et le reste. Et là, c'est la grande joie. J'espère que cette nouvelle-là va continuer jusqu'au bout et que Netanyahou, lui aussi, va accepter cet accord-là et qu'on va finir par un cessez-le-feu.
Alors pour autant, Israël a continué à bombarder Rafah cette nuit et souhaite toujours y mener son offensive contre l'avis de ses alliés comme la France ou les États-Unis. Des frappes y ont fait au moins 5 morts dans la soirée. 366 faits antisémites enregistrés au premier trimestre en France, c'est 300% de plus sur un an. Cette explosion annoncée hier par Gabriel Attal qui appelle à ce qu'aucun geste ne reste impuni. Le Premier ministre a participé au dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France. Si les Français juifs représentent 1% de la population, population française. Selon lui, plus de 60% des actes anti-religieux sont des actes antisémites.
Prudence si vous prenez la route pour ce début de week-end prolongé.
Bison futé, voie rouge dans le sens des départs aujourd'hui et orange demain. 1000 km de bouchons sont attendus ce soir à 18h. Et si vous faites le plein avant de prendre la route, vous verrez peut-être que le gasoil se vend de nouveau moins cher que l'essence, avec 1,74€ le litre. Alors, comment on l'explique, Christophe Bourou ?
À cela, deux explications. La première concerne le stockage, le diesel étant utilisé pour le chauffage au fioul. La demande étant plus importante l'hiver, mécaniquement, quand le printemps arrive, eh bien, les prix se détendent. Dans le même temps, et c'est la deuxième explication, la demande mondiale d'essence repart en flèche. Cela correspond à ce qu'on appelle le driving season aux États-Unis. Les Américains sont plus nombreux à partir en week-end au volant de voitures roulant à l'écrasante majorité au sans-plomb, ce qui crée un pic de consommation qui tire les prix à la hausse. Résultat, l'écart entre les deux carburants se creuse. Il est aujourd'hui entre l'essence et le diesel de 27 centimes, alors qu'il était quasi identique il y a encore 3 mois.
Christophe Bourreau, spécialiste auto de RTL.
Le gasoil moins cher que l'essence, est-ce que ça vous incite à repasser au diesel ? C'est notre question du jour. Vous dites oui à 49%, non 39%. Vous votez toute la journée sur notre appli et sur RTL.fr. Et puis, on continuera à aborder ce sujet avec notre invité à 6h15, le président de l'UFIP Énergie et Mobilité, Olivier Gantois.
À un peu plus d'un mois des européennes, la liste Rassemblement National conduite par Jordan Bardella continue de faire la course en tête avec 31% des suffrages exprimés. Résultat de notre sondage Toulonnard et Interactif pour RTL. Un chiffre stable. Valérie Ayer, candidate de la majorité, et Raphaël Glucksmann, candidat socialiste Place Publique, sont eux plus que jamais au coude à coude. L'une perd un point sur une semaine avec désormais 15% des intentions de vote, quand lui prend un point avec 14%. Raphaël Glucksmann qui sera d'ailleurs l'invité d'Amandine Bégaud sur RTL tout à l'heure à 7h40. À Metz, deux femmes sont en garde à vue après des tags sur plusieurs œuvres du musée Pompidou. Elles ont été taguées avec la mention MeToo dans le cadre d'une action baptisée « On ne sépare pas la femme de l'artiste ». Parmi les toiles visées, l'origine du monde de Gustave Courbet, elle était protégée par une vitre et n'a donc pas été endommagée. Une troisième personne qui n'a pas été interpellée pourrait être à l'origine du vol d'une œuvre, une broderie sur tissu.
5h36 sur RTL, le football, Hortense Paris face à son destin ce soir en Ligue des Champions.
Après leur défaite 1-0 la semaine dernière, les Parisiens doivent impérativement gagner à 21h contre Dortmund pour rejoindre la finale de la compétition pour la deuxième fois de leur histoire. Alors, pour ce qui sera le dernier match de Kylian Mbappé en Ligue des Champions au Parc des Princes, le club est prêt à tous les scénarios, Nicolas Georgerot.
Oui, le score du 8e de finale retour en 2020, 2-0 contre ce même Borussia, conviendrait largement et ferait le bonheur des Parisiens. Ces deux buts enverraient le Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions pour la deuxième fois. 1-0 seulement, ce serait une prolongation. Et si Dortmund ouvre le score, le PSG devra démontrer le même calme et les mêmes nerfs qu'à Barcelone pour renverser la situation. L'entraîneur Luis Enrique a préparé son équipe à de multiples scénarios.
C'est ce qui est merveilleux dans le foot, même si parfois c'est ingrat, voire injuste. Juste, tout peut arriver, c'est comme dans la vraie vie. Je répète, notre objectif, très clair, est d'arriver en finale. Une finale de Ligue des Champions, c'est rare dans la carrière d'un joueur ou d'un entraîneur. Mais avant ça, faut passer Dortmund.
Ne pas cogiter, ne pas se voir non plus à Wembley en finale avant de jouer ce match retour. Le staff parisien s'est appliqué à chasser les pensées parasites depuis 5 jours. La pression sera palpable pour Kylian Mbappé qui termine son aventure européenne au Parc des Princes et qui ne voudra pas clore l'histoire sur une élimination.
Nicolas Georgerot, vous retrouvez ce soir aux commentaires de ce PSG Dortmund rencontre à vivre sur RTL, soirée spéciale dès 20h. En Ligue 1, Lille reste 4e au pied du podium. Donc après sa défaite 4-3 contre Lyon dans un match assez fou dans le cadre de la 32e journée. Et puis en basket, c'est une première pour un joueur français. Victor Wembanyama est désigné rookie de l'année par la NBA. Ce titre remis à un joueur qui vit sa première saison dans le championnat américain, ici chez les Spurs de San Antonio. Victor Wembanyama qui entend aussi s'illustrer cet été aux Jeux Olympiques. Et je vous rappelle cette journée spéciale demain sur RTL pour l'arrivée de la flamme olympique en France, à Marseille, avec une édition spéciale dès 18h.
Merci beaucoup Hortense Crépin, vous revenez à 7h.
Avec grand plaisir.
Est-ce que vous savez que nous avons un héros dans ce studio ?
Pas vrai.
Si, si.
C'est vous Jérôme ?
Non, écoutez ce qui s'est passé vers 4h30 tout à l'heure en début d'émission.
J'étais au supermarché.
Oui.
Et il y a.
C'est passionnant.
Et il y a un papy qui m'a demandé de l'aider à mettre un pack d'eau dans son caddie.
Oui.
Parce qu'il n'arrivait pas à le faire et je l'ai fait.
Waouh.
Ah, c'était super comme histoire, vraiment.
C'est tout.
Alors, je suis assez déçu, il m'a pas donné un petit billet. Moi, je m'attendais à ce qu'il me dise ah bah merci, Tony.
Ah, d'accord.
Ah, oui, d'accord. Non, mais vous gâchez tout là en fait.
Voilà Tom Lefebvre qui nous a dit qu'il a fait un geste héroïque hier. Trop, dit, mais quel est ce geste? Que s'est-il passé?
Tout pour la gloire, Tom. Hein. Oui. On vous donne pas d'argent, mais on parle de vous. Quoi.
Bah non, mais je suis parti avec son portefeuille quand même. Il s'en est toujours
ah,
pas rendu
d'accord,
compte.
C'est lui. C'est lui. Merci Hortense.
Eh bien, à tout à l'heure, en tout cas.
À tout à l'heure.
Restez pour cela. Hein.
Vos messages, Marina.
Bah, justement, il y a Olivier qui nous dit waouh, quel exploit,
merci,
Tom.
Avec
plein de points d'exclamation. Les gens sont vraiment épatés par qui vous êtes.
Appelez-moi monsieur.
Eric est à Bourges. Alors, il nous dit pour une fois sans pluie. Bah ouais, ça fait du bien. Ce sera de mieux en mieux au fil de la semaine. Franck, lui, nous signale du brouillard. Il est à Vavrin, dans le Nord. Et puis, un petit mail. Je rappelle, hein, l'adresse mail, rtlpetitmatin@rtl.fr. Un petit mail de Marc est routier à Valmy, dans la Marne, où le temps est sec, il fait 9 degrés. Et de Michel à Vouziers, dans les Ardennes, où le ciel est étoilé, il fait 8 degrés. Et on va terminer en musique. Il y a Odile qui a beaucoup apprécié la chanson de Bob Marley que nous avons passée à 4h50. Elle adore, elle a assisté à son concert au stade Mayol. C'était le 26 juin 1980.
Waouh, quel souvenir! Toujours un plaisir de réécouter Bob Marley de bon matin. Il est 5h40.
RTL autour du monde.
RTL autour du monde avec un reportage suivi d'un coup d'œil dans la presse. On va s'intéresser à la vie nocturne londonienne qui n'est plus ce qu'elle était. Mais d'abord, la visite de Xi Jinping en France. Aujourd'hui, le président chinois et son homologue français seront dans les Hautes-Pyrénées au lendemain d'entretiens plus formels à Paris où il a notamment été question de notre cognac que Pékin avait envisagé de taxer davantage. Projet Mathilde Piquet temporairement écarté donc.
Oui, les producteurs de cognac vont sûrement pousser un gros ouf de soulagement au saut du lit ce matin. Aucune sanction ne devrait être imposée sur leur vente en Chine. Il n'est plus question d'une augmentation des tarifs de douane sur les spiritueux français dans l'immédiat. La menace planait pourtant depuis 2022 et l'ouverture d'une enquête des autorités chinoises pour pratiques commerciales trompeuses. De quoi inquiéter sérieusement la filière du cognac. La Chine, c'est un quart de ses ventes, son deuxième plus gros marché après les États-Unis. Mais attention, il ne faut pas se réjouir trop vite. La promesse du président chinois vaut uniquement le temps de l'enquête des autorités locales. Rien n'empêche d'autres sanctions à l'avenir. En tout cas, pour l'instant, Xi Jinping repartira bien avec deux bouteilles de cognac dans ses valises. Cadeau d'Emmanuel Macron, qui semble avoir fait son petit effet.
Mathilde Piquet, notre coup d'œil dans la presse, avec cet article relevé dans le journal autrichien Die Presse, journal autrichien qui s'intéresse à la vie nocturne londonienne. Vie nocturne en crise, figurez-vous. Il y avait plus de 3000 discothèques au Royaume-Uni il y a 20 ans. Il n'y en a plus que 850 aujourd'hui. Et à Londres seulement, ce sont 3000 bars et clubs qui ont fermé depuis 2020. 3000 bars et clubs fermés en 4 ans. C'est aussi la bérésina pour les salles de concert qui ont fermé les unes après les autres. Alors, question, pourquoi? D'abord, explique Die Presse, les coûts d'exploitation qui ont explosé. Énergie, matières premières, ils ont grimpé de 30 à 40%. Beaucoup d'établissements n'ont pas survécu. Il n'y a pas eu les mêmes aides que chez nous en France. Le coût de la vie a augmenté aussi pour les clients qui, par conséquent, sortent moins. Surtout que la pinte de bière est à plus de 8 euros aujourd'hui dans la plupart des quartiers de Londres. Et puis, il y a un avant et un après Covid. En 2022, après la levée des restrictions, la fréquentation de la capitale britannique a chuté de 55% par rapport à 2019, année pré-pandémie. Il y a aussi le télétravail, les sorties d'après bureau sont moins nombreuses. Et puis il y a le Brexit qui a entraîné une pénurie de main-d'œuvre. Avant la sortie de l'Union européenne, il y avait beaucoup de jeunes venus d'Italie, d'Espagne ou du Portugal qui étaient derrière les comptoirs dans les bars à Londres. Ben aujourd'hui, ils ont disparu. Les visas coûtent trop cher. Londres n'est plus à la fête. À quand remonte la dernière fois que vous avez fait une vraie soirée à Londres? Demandait il y a quelques semaines un journal britannique à ses lecteurs. C'est vrai que ça paraît loin. Restez avec nous sur RTL, il est 5h43, nous parlons ensemble ce matin au 3210 des prix des carburants.
Merci d'écouter RTL.
RTL, vivre ensemble.
Tout savoir sur les élections européennes avec le gouvernement.
Thomas, bonjour. Vous avez interrogé un spécialiste de l'Union européenne. Alors pourquoi on vote concrètement en juin prochain?
Pour élire les 81 représentants français qui siégeront au Parlement européen ces 5 prochaines années.
Et à l'issue de ce scrutin à un seul tour?
Eh bien, chaque liste qui obtient plus de 5% des suffrages se voit attribuer un nombre de sièges proportionnel.
D'accord. Et on vote quand?
Le 9 juin. Et pour plus d'infos, rendez-vous sur elections.intérieur.gouv.fr.
Merci.
Ceci est un message du gouvernement.
Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, dans RTL Matin.
Aujourd'hui, on reste à Dien Bien Phu. Je vais vous raconter les minutes ultimes de cette tragédie, mais aussi le retour triomphal qu'ont connu en France notre docteur Grovin et son ange de Dien Bien Phu.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, avec Laurent Deutsch, tous les jours à 7h20.
À tout à l'heure.
Jérôme Florin,
RTL Matin.
Et à retenir dans l'actualité aujourd'hui, l'événement foot. Ce soir, c'est la demi-finale retour de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain tenu en échec à l'aller qui reçoit Dortmund au Parc des Princes. Coup d'envoi 21h, soirée spéciale sur RTL, soirée spéciale foot des 20h. Les supporters parisiens sont chauds bouillants et comme Jérémy, ils vont tout faire pour pousser leur équipe vers la finale.
Il ne faut pas non plus avoir peur. On est quand même meilleur sur le papier, meilleur sur le terrain. Maintenant, on reste à jouer. Tout est à faire. Maintenant, on va les supporter. On va essayer d'être le 12e homme. En espérant qu'il nous ramène une victoire au bout.
On en reparle dans le journal de 6h.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
Le gasoil moins cher que l'essence, est-ce que ça vous incite à repasser au diesel? C'est la question du jour. Vous dites oui à 49%, non à 39%, et on en parle ensemble au standard.
On va en parler avec Elodie qui est infirmière à Épagny. Bonjour Elodie.
Bonjour, vous allez bien?
Bonjour,
oui, ça
Elodie.
Bien. Ça se trouve où, Épagny? Dites-nous.
Alors, c'est à côté d'Annecy.
D'accord.
Sous la pluie, Marina.
Bah oui,
sous
je sais, il y en a pour la journée pour vous en plus.
Ah bah ça fait déjà plus depuis hier.
Oh, depuis plusieurs mois même, on peut le dire.
Oui, c'est ça, voilà, exactement.
Quel joli printemps et tout le monde en profite. Alors, Elodie, alors, ce qui est intéressant, c'est que vous devez racheter une voiture bientôt.
Oui, c'est ça, oui.
Et vous hésitez?
Alors, j'hésite plus ou moins, parce qu'en fait, je vous explique, moi, je pense redevenir frontalière, donc je vais faire quand même pas mal de kilomètres. Et avec mon mari, on se pose la question de reprendre effectivement un diesel. Parce que au niveau économie, on cherche à faire des économies partout, et c'est quand même, maintenant, il y a entre 20 et 30 centimes d'écart sur l'essence, et du coup, c'est quand même vachement intéressant, quoi.
Ça fait réfléchir, même si ça pollue plus.
Oui, j'avoue. Mais bon, de toute façon, je vais forcément polluer puisque je vais faire presque 100 km par jour. Donc oui, je suis d'accord avec vous. C'est vrai qu'au niveau pollution, c'est pas terrible, mais je suis pas encore prête à passer à l'électrique. Et c'est vrai que le diesel, au niveau des prix, c'est vraiment très avantageux pour l'instant, du moins. Enfin, en attendant.
Et pourquoi pas l'électrique?
Alors, moi, je travaille avec l'électrique en ce moment en France et je dois vous dire, alors, est-ce que c'est de la responsabilité? Je suis pas convaincue. Enfin, c'est vrai que c'est peut-être de la responsabilité de chacun, mais c'est vrai que nous, on est plusieurs à l'utiliser. Alors, s'il y en a un qui l'a pas branché, du coup, on se retrouve en galère le matin parce que, du coup, la Zoé ou l'autre voiture n'est pas branchée, du coup, c'est pas top. Et puis, il y a ces raisons-là qui font que pour moi, et puis, la recharger, j'ai toujours peur de manquer. Je sais pas la réelle consommation qu'on fait. C'est vrai que si vous utilisez un peu plus le chauffage, un peu plus la climatisation. Oui. Et vous savez pas, on sait pas trop. Donc c'est vrai que l'électrique, je suis pas. L'autonomie me gêne un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui me dérange un petit peu.
Oui. Donc vous hésitez. Diesel pour l'instant, c'est ce qui penche plus dans la balance.
Oui. Puis je trouve que le prix pour revenir électrique, le prix d'achat électrique est quand même assez élevé quand même. Hein.
Oui.
Donc c'est vrai que on se pose des questions, mais je pense que le diesel, oui, va nous faire pencher malheureusement. Mais malheureusement pour les écologistes, c'est vrai que là, le diesel me tente plus.
Vous n'êtes pas la seule, hein, Elodie. Hein, c'est ce qui va dans le, c'est ce que nous disent la plupart des auditeurs qui nous envoient des messages, Tom, ce matin.
Oui, sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, c'est plus rentable et plus costaud. Voilà ce qu'écrit Kevin. Pour Raphaël, même si le gazole était plus cher que l'essence, le diesel reste plus économique par rapport à la consommation des véhicules. Stéphane est d'accord. J'ai toujours pris du diesel, ça consomme moins. Franck lui a choisi, c'est plutôt voiture électrique.
Et Elodie, vous faites beaucoup de routes. Vous avez
Alors pour l'instant non, mais effectivement quand je serai frontalière, oui, je vais faire au minimum 100 km par jour, quoi.
100 km par jour. Oui,
ouais,
c'est énorme.
Ouais.
D'accord.
Ouais, minimum quand on est frontalière, oui, ça en fait pas mal de kilomètres. Ouais, exactement.
Et merci pour ce témoignage. On vous souhaite une excellente journée.
Vous aussi. Et puis continuez comme ça, c'est super de vous écouter. Pour ceux qui se lèvent tôt, moi je me branche tout de suite sur votre onde et c'est vraiment agréable de vous écouter.
Bon, on n'a pas l'intention de s'arrêter, hein. On va continuer.
Très bien.
On est là. Moi, je vous l'annonce, Marina.
Elle a l'air déçue, Marina.
Ouais, toujours. On adore se chambrer. On vous souhaite une très très bonne journée. À très bientôt, Elodie.
Merci à vous. Au revoir.
Merci. 5h48.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr.
Bon réveil avec RTL, on accueille Aline Perraudin et Olivier Dauvert. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
On va parler beauté ce matin. Aline, que penser des masques LED?
Une grande tendance beauté actuelle, des masques en plastique rigide qu'on peut se mettre sur le visage et qui auraient des vertus anti-âge.
Ouh là là, Olivier, dans les pourquoi de la conso ce matin.
Ben peut-être quelque chose que vous allez découvrir, pourquoi Michel-Édouard Leclerc, que vous connaissez tous, ne possède pas les magasins Leclerc.
RTL Matin avec Jérôme Florin.
La famille Haussmann, un hommage à l'amour. L'amour de celles et ceux qui cultivent nos vignes en Pays d'Oc, terroir gorgé de soleil. L'amour du partage, des moments suspendus à refaire le monde ou apprécier la vie. By Haussmann, un IGP Pays d'Oc, Merlot, Syrah, Chardonnay, célébrons l'amour et l'amitié.
Haussmann, le plus aromatique des hommages.
Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
RTL Matin, l'angle éco.
Le secteur du cuivre est en pleine ébullition et le cours de ce métal, pourtant banal, a priori explose.
Si le métal rouge est aussi demandé, c'est qu'il possède une qualité précieuse. C'est un excellent conducteur de l'électricité. Oui. Or, toute l'activité économique mondiale est en train d'être électrifiée, évidemment pour diminuer les émissions de carbone.
Le cuivre est donc le métal de la transition énergétique d'une certaine façon.
Oui, et je vous parlais des réseaux, mais il y a aussi les voitures. Un véhicule électrique contient 4 fois plus de cuivre qu'une voiture thermique.
L'angle éco à 7h35.
RTL Matin avec Jérôme Florin.
Merci de commencer la journée avec RTL. Olivier Dauvert, nous allons parler des magasins Leclerc dans un instant.
Oui, tout le monde ou presque connaît le patron de Leclerc, Michel-Édouard Leclerc. En réalité, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il ne possède pas le début du quart d'une moindre épicerie.
Mais avant cela, Aline, aujourd'hui vous nous parlez de la tendance beauté du moment, les masques LED. On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est quoi exactement?
Alors vous savez, ça ressemble à des masques futuristes. On les applique quelques minutes sur le visage. Les masques LED sont des appareils équipés de diodes qui émettent des ondes et diffusent des lumières de basse énergie sans UV qui stimulent la peau et vont améliorer son aspect. Alors on s'en sert depuis longtemps dans les cabinets de dermatologie et les instituts de beauté. Aujourd'hui, la technique a le vent en poupe car on peut les acheter et les utiliser chez soi.
Alors justement, ça s'utilise comment? Ça marche comment?
Alors les masques LED émettent différentes lumières qui vont agir à différents niveaux de la peau, m'a expliqué le docteur Martine Basperas, dermatologue. Par exemple, les lumières rouges et infrarouges vont aller jusqu'au derme et stimuler les cellules qui fabriquent le collagène et l'élastine. Elles ont donc une action anti-âge. Les lumières bleues sont-elles plus superficielles et vont par exemple être utilisées pour corriger des imperfections, notamment de l'acné, au niveau de l'épiderme.
Et quel résultat est-ce qu'on peut espérer?
Alors, selon la dermatologue, on peut espérer avoir une amélioration de la qualité de la peau, un teint plus homogène avec moins de petites imperfections, moins de rougeur et moins de fines ridules. Attention, les résultats ne sont pas spectaculaires, les rides bien installées ne vont pas disparaître et la peau ne va pas se retendre si elle est relâchée. L'effet rajeunissant est modéré et progressif. D'après les études fournies par les marques, les résultats peuvent s'observer au bout de 3 à 4 semaines, à raison d'environ 2 applications par semaine. On peut voir le masque LED comme un traitement d'entretien plutôt. Il ne remplace pas les crèmes, mais il peut les compléter.
Est-ce que c'est risqué?
Alors non, c'est vraiment une technique bien maîtrisée, totalement indolore et qui ne peut pas occasionner de brûlure. Elle convient en plus à tous les types et toutes les couleurs de peau. Ce qui est important, c'est de bien respecter les règles d'utilisation des appareils fournis par les fabricants, notamment le nombre et la durée des séances à faire par semaine. Il ne sert à rien d'augmenter les séances ou leur durée. Les résultats ne seront pas meilleurs car il y a un effet de seuil, m'a précisé la dermatologue.
Bon, alors Olivier Dauvert est très intéressé, je vois. Comment le conseiller, comment bien choisir le masque LED pour Olivier?
Alors, il y en a à tous les prix, il faut savoir, à partir d'une centaine d'euros, et certains peuvent même coûter...
Il va falloir en faire des chroniques, là, Olivier.
Plus de 1000 euros. Mais, bonne nouvelle, c'est pas du tout forcément le plus cher qui est le plus efficace. Ce qu'il faut regarder, c'est la puissance du masque, le nombre de LED et les couleurs. Selon la dermatologue, la puissance doit être d'au moins 30 milliwatts par centimètre carré, mais n'a pas besoin d'être très élevé. Le masque doit disposer d'au moins 100 diodes et émettre 3 ou 4 couleurs, dont la lumière rouge et infrarouge, qui a l'action rajeunissante la plus complète.
Au moins 100 diodes et 3 ou 4 couleurs. Merci beaucoup, Aline.
Bon, moi, je propose sinon un concombre. C'est moins d'un euro la pièce. Ça peut faire un joli masque. C'est beaucoup
ça marche, ça, le concombre.
C'est pas
en fine tranche.
Ça, ce sera un débat à faire à l'occasion. Merci beaucoup, Aline Perraudin. Question conso ce matin, Olivier Dauvert. Tiens, pourquoi Michel-Édouard Leclerc ne possède pas les magasins Leclerc?
Bon déjà, vous connaissez forcément Michel-Édouard Leclerc, hein, j'imagine bien. Bientôt 72 ans, ça sera d'ailleurs le 23 mai prochain, dans quelques jours. Il est l'infatigable incarnation des magasins Leclerc, omniprésent à la télé, à la radio, dans les journaux. Il est même sur tous les réseaux sociaux, ou presque, avec à chaque fois, écoutez bien, des centaines de milliers d'abonnés. Bref, Michel-Édouard Leclerc est la figure même de l'épicier qui a réussi. Lui qui a passé une bonne part de son enfance dans l'épicerie familiale à Landerneau, c'est près de Brest, dans le Finistère.
C'est là que son père, Édouard Leclerc, a démarré.
Oui, on était en 1949, dans une pièce familiale, dans une pièce de la maison familiale, pardon. Édouard Leclerc entasse des pâtes, des biscuits, de l'huile qu'il achète directement aux fabricants pour court-circuiter les grossistes qui prennent une marge au passage. Leclerc invente en quelque sorte le circuit court pour vendre moins cher. Alors, 3 ans plus tard, naissance de Michel-Édouard Leclerc, qui baigne donc depuis toujours dans cette idée finalement de prix cassé, ça aide à comprendre à la fois le personnage et le succès de l'enseigne qui est devenu rien de moins que le premier commerçant alimentaire en France, devant Carrefour, devant Auchan, devant Intermarché et tous les autres.
Bon, tout cela est passionnant, mais ça nous dit pas pourquoi Michel-Édouard Leclerc ne possède pas ces magasins Leclerc.
Eh non, jeune impatient, je vous reconnais bien là, Jérôme. En fait, non, très sérieusement, dès le début, Édouard Leclerc développe son enseigne par compagnonnage. Il propose à d'autres jeunes entrepreneurs comme lui de faire pareil, d'acheter en direct et si possible, évidemment, ensemble, d'acheter aux fabricants, de vendre moins cher et d'appeler leur magasin centre distributeur Édouard Leclerc. C'est ce qu'on appelle une coopérative. Chaque magasin Leclerc appartient à un entrepreneur indépendant des autres. Ça pourrait être vous Jérôme, vous Aline, vous Marina ou encore moi. Il s'engage à respecter évidemment la politique générale de l'enseigne qu'il contribue à élaborer puisque chaque propriétaire de magasin Leclerc est de fait membre de la coopérative.
Ça veut dire qu'Édouard Leclerc n'a eu qu'un magasin, celui de Landerneau.
C'est presque ça. En réalité, il en a eu 2 sur plus de 600 aujourd'hui. Oui. Landerneau est juste à côté Brest. D'ailleurs, un adhérent de la coopérative Leclerc ne peut pas posséder plus de 2 hypermarchés Leclerc. C'est toute la différence, par exemple, avec la famille Mullier ou à la suite du fondateur Gérard Mullier qui a créé Auchan, eh bien ses enfants et ses cousins possèdent l'intégralité des magasins Auchan. Donc, pour revenir à Michel-Édouard Leclerc, il ne possède pas les magasins Leclerc. D'ailleurs, il n'a même jamais possédé ceux créés par son père qui avaient été vendus à d'autres entrepreneurs, tout en conservant évidemment l'enseigne Leclerc.
Mais la famille Leclerc possède encore la marque Leclerc.
Même pas, parce que avant sa disparition, Édouard Leclerc voulait que son nom, qui était donc sa marque, hein, de fait, appartienne à la coopérative Leclerc. La marque a donc été vendue, c'était en 2004. La petite histoire évoque une somme de 120 millions d'euros. Alors, de quoi mettre la famille Leclerc évidemment à l'abri du besoin, c'est vrai. Mais comparé à la fortune des Mulliez, qui est de 20 milliards d'euros, ça ferait presque prolo.
Merci beaucoup Olivier Dauvert, merci beaucoup Aline Perronin, on se retrouve demain.
À demain.
À la même heure et Olivier tout à l'heure 9h.
Avec Julien Courbet.
RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
Philippe, tous les jours juste avant 8h, hier il était avec maître Nabil Boudi, l'avocat de la mère de Naël.
Vous êtes l'avocat de la famille de Naël, ce drame terrible qui n'est pas le sujet qui vient en premier quand on demande aux abuseurs leur sujet de prédilection. La mort de Naël passe très loin après les engueulades de couple chez Ikea, les flatulences en ascenseur et bien sûr Anne Hidalgo. Et les flatulences d'Anne Hidalgo, bien sûr.
On
peut mixer les trois.
Bon, écoutez, on se rappelle de la cagnotte solidaire créée par le désormais candidat de Reconquête, Jean Messia, pour le policier.
Oui, alors l'extrême droite a donc fait rimer qui veut gagner des millions et fait entrer l'accusé. Avant le verdict de la justice, demain il faudra peut-être gagner une villa avec piscine à Jonathan Daval, une croisière dans les Cyclades à Monique Olivier. Alors on a tous croisé des policiers, on a tous pu constater qu'il y en a des formidables. Il y a Abdoulaye Kanté qu'on salue, qui nous écoute. Il y a des mecs dévoués à leur tâche, empathiques, j'ose le mot, intelligents. Oui, il y en a. Absolument. Et puis il y en a. On a aussi pu constater qu'il n'y avait pas que des intellectuels. Et des armes dans certaines mains deviennent dangereuses. Prenez les académiciens français, par exemple. Mais ils ont tous une épée. Il y a très peu de blessures par arme blanche sous la coupole. Jean d'Ormesson n'a jamais tenté d'embrocher Alain Decaux pour avoir fini les frites ou draguer Hélène Carrère d'Encausse.
Philippe Cavrivière, tous les jours juste avant 8h. Marina, ce sera encore un peu frais au sud.
Exactement, on a des températures cet après-midi qui seront fraîches de 2 à 3 degrés en dessous des moyennes de saison au sud, hein, parce qu'au nord, on sera plutôt dans les moyennes. 15 degrés par exemple à Clermont-Ferrand cet après-midi, c'est 2 degrés de moins qu'hier, 15 aussi à Tarbes. Il fera 16 degrés à Lyon, 16 à Grenoble, 16 degrés à Toulouse ou encore à Biarritz, 17 à Limoges, 17 à Dijon, 18 à Brest, 19 à Lille. On est plutôt dans les moyennes de saison, 19 aussi à Strasbourg, 20 degrés à Paris cet après-midi, 20 au Mans et à Nantes, 20 à Nîmes et Montpellier, quand même jusqu'à 21 à Ajaccio, mais Ajaccio hier on dépassait les 25 degrés. Hein.
Et dans le ciel encore pas mal de pluie aujourd'hui,
ah oui, c'est
mal à le dire, mais
ouais, parce qu'on
ça
en a
fait
marre.
Mal de le dire.
Pourtant on le
ça.
Dit depuis un petit moment, mais c'est vrai qu'on s'y fait pas, c'est vrai que ces averses sont encore là, présentes notamment au sud de la Loire, c'est là où on en a le plus, mais aussi du sud de l'Alsace, au nord des Alpes, pas mal d'averses. Alors entre ces deux petites zones, il peut y avoir des petites éclaircies. Alors vers la Méditerranée, mais aussi vers la région parisienne ou encore vers les Hauts-de-France et les Ardennes. Il y a quelques éclaircies ce matin. Bon, c'est pas ce qui domine hein, pour les autres régions, ce sont les nuages et les averses. Alors cet après-midi, au sud, ça va rester perturbé. Quand je dis au sud, c'est vraiment du sud de la Loire au Massif central, des Alpes, en remontant aussi jusqu'à le sud de l'Alsace. On aura un ciel nuageux avec des averses, voire des orages. Il y aura encore des orages cet après-midi, de la neige sur les Alpes et les Pyrénées au-dessus de 1800 mètres. Faudra